Le débat du jour, Nicolas Brousse.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débat qui n'est pas un poisson d'avril, même si nous allons parler ce soir d'une éventuelle candidature de François Hollande à la prochaine présidentielle. À celles et ceux qui trouveraient cette introduction un peu rude, voici une petite revue de presse express. Le Parisien titré aujourd'hui présidentielle 2017 et pourtant il y croit encore. Sous-titre, François Hollande continue de penser qu'il pourrait être réélu. Pourtant, il est contesté jusque dans son propre camp. Et le journal de donner la parole à des militants PS, des militants, j'insiste, cet agent de maîtrise à Paris qui explique que si François Hollande se présente, il déchire sa carte du parti. Une étudiante qui assure qu'elle ne fera pas campagne. D'autres sont un peu plus mesurés, à l'image de cet enseignant qui estime que pas mal de choses ont été faites, certes, mais qu'il ne voit pas le président se représenter s'il ne tient pas son engagement d'inverser la courbe du chômage. Le Monde titrait hier, à gauche, le rejet massif de François Hollande. L'actuel chef de l'État ne serait pas présent au second tour de la prochaine élection, quels que soient les candidats choisis à droite. Alors François Hollande, seul contre tous, c'est le débat ce soir sur RFI. Et nous en parlons avec Corinne Narasiguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, vous avez un rôle difficile en ce moment. Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Les auditeurs de RFI vous connaissent bien puisque vous intervenez régulièrement dans Dimanche Politique. Corinne Narasiguin, j'imagine que vous avez lu, vous aussi, les journaux ce matin. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants qui n'y croient plus ou plus beaucoup ?
On sait toujours que c'est très difficile dans un parti quand on est au pouvoir. Il y a toujours beaucoup de déceptions. Il y a toujours des militants qui partent. Il y a toujours plus qui partent quand on est au pouvoir que quand on n'y est pas. Mais il y a aussi beaucoup de militants qui restent et il y en a d'autres qui arrivent.
Il y en a qui arrivent.
On en perd un peu plus, pour être honnête. On en perd un peu plus qu'on a de nouveaux arrivants, mais il y en a qui arrivent aussi. Donc il faut pas être totalement pessimiste. Je pense que on a rarement fait des pronostics exacts d'une élection présidentielle un an avant l'élection. Donc on a encore du temps, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail devant nous parce qu'on doit convaincre sur le bilan, parce que je crois qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur ce qu'on a réussi. On s'est beaucoup trop publiquement déchiré sur ce qu'on n'a pas bien fait.
On va y revenir, c'est toujours très compliqué au sein du PS.
Et donc du coup, on n'a pas suffisamment communiqué sur toutes les choses qu'on a réussi. On a réussi beaucoup de choses. Et puis sur ce qu'on veut faire pour poursuivre et amplifier ces réussites.
Olivier Roucan, l'usure du pouvoir, c'est un classique, mais là, on a l'impression quand même de dépasser la moyenne générale.
Oui, en effet, les sondages, les enquêtes sérieuses, qui sont redondantes et depuis assez longtemps finalement montrent que le président en exercice, au-delà de ses qualités, de l'exercice du pouvoir, de ce qui a été reconnu quand même aussi dans les sondages, à savoir sa capacité à faire face et à réagir en cas de drame et des attentats terroristes. Donc tout ceci n'empêche pas que de façon lancinante et redondante, dès qu'il s'agit de politique intérieure, dès qu'il s'agit de comprendre ne serait-ce que les grandes orientations qui sont défendues par ce chef de l'État, eh bien là, il y a, comme l'on dit, un gap, il y a un hiatus, l'opinion publique ne suit pas. Et on voit que dans la dernière enquête, Cevipof, qui a été abondamment commentée, on a une partie de l'électorat, des sympathisants du Parti Socialiste qui s'en vont du côté des insatisfaits, qui ne sont plus du tout satisfaits. Et lorsqu'ils pensent aux échéances à venir, ils s'en trouvent de moins en moins pour dire que François Hollande doit représenter les valeurs de gauche. Donc il y a un problème quand même qui existe, même si vous avez tout à fait raison de rappeler que le jeu n'est jamais fait, que beaucoup de choses peuvent se passer et que tout va dépendre de l'offre qui sera celle de l'offre électorale, qui sera celle de la prochaine échéance présidentielle. Et il est vraiment trop tôt pour savoir, rien n'est fait, rien n'est joué. Et de ce point de vue, les acteurs savent défendre leurs intérêts jusqu'au bout, à commencer par le président actuel, s'il se représente.
Fin stratège politique, mais Corinne Narasiguin, on le disait, Olivier Roucan le disait, le président a vu sa cote de popularité rebondir après sa gestion des post-attentats à Paris. Ça a été très très net, et en même temps, pour paraphraser un de ses prédécesseurs, ça fait pchit.
Je crois que post-attentat, ce sont toujours des moments très particuliers. Et c'est vrai que François Hollande, dans ces moments-là, a su incarner la nation, a su être le chef d'État que les Français attendaient. Et ça a été reconnu à juste titre.
Sauf qu'il n'arrive pas à capitaliser
ensuite,
là-dessus.
Ensuite, il y a des questions de politique intérieure qui reprennent immédiatement le dessus. Et c'est vrai que, à la fois, le fait que la droite, jusqu'à présent, ait finalement été assez inexistante en termes de d'opposition, de dire ce qu'elle avait à proposer, elle, et que on entend surtout, malheureusement, dans les médias, c'est pas la faute des médias, c'est la faute des comportements à gauche.
On entend beaucoup,
effectivement, des voix minoritaires, mais qui sont très fortes, sur des voix critiques, sur la politique qui est menée à gauche. Du coup, la possibilité de faire du clivage gauche-droite, de mettre en valeur ce qu'on a réussi, est plus difficile.
Le problème, Olivier Roucan, c'est que bon, peut-être que la droite ne réagit pas assez, on pourrait encore en débattre, mais à gauche, en tout cas, c'est la fracture totale.
Oui, mais si vous voulez, sur le clivage droite-gauche et sa visibilité, qui est quand même un enjeu très important du fait de la progression d'un parti hybride venu de l'extrême droite, le Front National.
Et qui attire d'ailleurs des sud de François Hollande.
Oui, plus qu'avant, c'est-à-dire que c'était relativement hermétique ceci, mais c'est la digue saute et on voit en effet des électeurs de François Hollande en 2012 qui, là encore les études l'indiquent, qui vont maintenant du côté du Front National, pour les régionales c'était le cas. Bon, la perturbation de la lisibilité de ce clivage, le gouvernement et le président actuel y sont pour beaucoup. Je veux dire par là que même si l'on met de côté la déchéance de nationalité qui pose vraiment des problèmes
On va en parler d'ailleurs.
Parce que là, loi El Khomri et la façon dont les choses sont présentées, parce que je pense que cela tient beaucoup à la mauvaise communication qui est faite, communication politique. Or aujourd'hui dans une démocratie, quand on est mauvais en communication, c'est vraiment difficile d'avancer. Mais sur la loi, donc sur le travail, la façon dont les choses sont présentées rend la lisibilité du clivage droite-gauche imperceptible. Je veux dire que derrière le vague terme, d'ailleurs, que l'on pourrait commenter à l'envi de libéral-social, en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de libéralisme économique. C'est comme ça que c'est perçu. Et lorsque vous regardez les enquêtes d'opinion, quelques mesures extraites de ce projet de loi, eh bien, elles sont majoritairement approuvées par les sympathisants, les Républicains, et majoritairement rejetées, à l'exception du référendum d'entreprise, par les sympathisants socialistes. Donc là, il y a quand même un problème, si vous voulez, de savoir si ce gouvernement, parce que c'est aujourd'hui comme ça que c'est interprété et perçu, si ce gouvernement est un gouvernement de gauche.
Conrad Assigard, beaucoup de gens se posent la question. Hein.
Je crois que sur la loi travail, il s'est fait aucun doute qu'il y a eu un énorme problème dans la manière dont... on a communiqué ou
Manuel Valls lui-même l'a reconnu
pour la présentation de ce projet de loi et surtout sur le fait que alors que l'essentiel de ce projet de loi qui avait été négocié avec les syndicats sur la question de la démocratie sociale, de faire progresser la démocratie sociale, la négociation collective au sein de l'entreprise, au sein des branches et au sein de l'entreprise, et sur la création de nouveaux droits pour les salariés avec le CPA, avec le compte personnel d'activité, tout ça qui aurait dû être vraiment ce qui la manière dont on aurait dû présenter la réforme, parce que c'est le cœur de la réforme, ça a été torpillé par des articles qui ont été rajoutés à la dernière minute sans négociation, qui parlent de licenciement. Alors que, en fait, même dans ces cas-là, on peut aussi expliquer en quoi le but est en fait d'apporter plus de protection, plus de souplesse aux entreprises certainement, mais aussi plus de protection aux salariés dans la manière dont ces licenciements sont négociés. Mais on l'a mal fait, c'est vrai. Et donc là, on en paye le prix aujourd'hui, mais je crois que le président et le gouvernement sont déterminés à aller jusqu'au bout de cette loi, et il l'a montré depuis le début de ce quinquennat, parce que il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est-à-dire d'avoir mené une politique au fil de sa cote de popularité. Depuis le départ, quel que soit le niveau de sa cote de popularité, quels que soient les résultats dans les élections intermédiaires, il reste convaincu de la nécessité des réformes qu'il mène, et il a le courage politique de s'y tenir. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument lui reconnaître. C'est vrai que ça ne lui sera pas reconnu tant qu'on ne verra pas concrètement les résultats de ces réformes. Mais on commence à les voir d'un point de vue économique. Donc on verra comment les choses évolueront sur les prochains mois. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre à son crédit.
Il y a quand même, Olivier Roucan, vous l'évoquiez, le problème de la déchéance de nationalité, une révision constitutionnelle qui finalement a été annulée. Le président l'a annoncé officiellement cette semaine. Il y a eu une image terrible. Il fait son discours en disant « bon, ok, on arrête tout ». Et il parle à tête basse. Pour certains analystes politologues, ça a rappelé le Valéry Giscard d'Estaing de 1981 qui dit au revoir et qui quitte le fauteuil à la télévision. On en est là.
Oui, on va éviter d'être des spécialistes en télescopage, mais
l'image est très forte quand même.
L'image est forte, mais vous voyez, on peut faire des raccourcis, voir des amalgames. Mais bon, peu importe l'image, c'est surtout la réalité qui compte, et la réalité, elle est celle quand même d'un président qui aborde la dernière année de son mandat en position de faiblesse. Et par rapport à ce qui est attendu de cette institution et de la fonction présidentielle, on ne peut pas tout le temps être, et c'est trop récurrent avec François Hollande, en situation d'encaisser des coups, de faire le dos rond, d'être dans une posture défensive. Les Français attendent d'un chef de l'État, à un moment donné, qu'il soit dans l'offensive, qu'il présente des grandes orientations, qu'il fixe des caps. Alors ça ne veut pas dire gérer tout au quotidien, mais au moins qu'il soit ferme sur un certain nombre d'engagements. Et ce qui est récurrent avec ce président qui pourtant prend des décisions, et qui pourtant, en plus sur le fond, est très ferme sur la politique de défense et sur la politique des affaires étrangères, c'est un président qui a pris des engagements qui sont lourds de conséquences. Mais tout ceci se perd finalement parce que il y a une incapacité à partager ces engagements à parler aux Français les yeux dans les yeux et à faire à ce que ce message soit entendu. Et sur le contrat social et sur la question de la flexi-sécurité, quelles sont véritablement les lignes de force? Est-ce que ce président veut porter des engagements qui sécurisent l'emploi en échange d'une plus grande flexibilité des employeurs? Et comment ceci est conçu à l'Élysée? Ben, excusez-moi, mais les Français se posent la question. Ils n'ont pas compris où ce président plaçait le curseur. Et alors ensuite, Matignon, le Premier ministre, on navigue à vue. Et c'est délétère sur le plan de l'opinion et sans doute de l'électorat. Parce que le dernier point, juste avant de c'est la parole, c'est de voir que, la dernière année s'entame finalement sur le mode... rien n'est fait pour rassurer l'électorat de gauche et pour mettre la gauche en ordre de bataille. Les gens qui étaient dans la rue hier...
Contre la loi travail.
Ne sont pas des sympathisants républicains. Hein.
Oui, mais pour beaucoup, se plaignent de problèmes qui, en fait, ne sont pas... qui ne sont pas traités dans la loi travail, qui se plaignent à raison de problèmes de précarité, etc., mais qui ne sont pas des sujets traités dans la loi travail, qui sont traités par d'autres réformes qu'on a pu mener ou qui sont traités par d'autres politiques qu'on est en train de mener, sur la lutte contre la précarité notamment. Et aussi, il y a un refus aussi, je crois, d'une partie des gens qui sont dans la rue. Ils ont des inquiétudes qui sont totalement légitimes, mais il y a aussi un refus... De ceux qui sont dans la rue, de toute forme de réforme, puisqu'il y a beaucoup de ces personnes qui avaient déjà décidé d'aller dans la rue avant même de connaître la dernière mouture du projet de loi.
Oui, mais ce ne sont pas des experts, si vous donc, voulez. Les personnes réagissent avec leur peu d'informations qu'elles ont et la peur.
Et, du coup, hein.
Même quand on essaie d'expliquer... CPA, vous voyez, ce compte personnel d'activité, reconnaissez que ce n'est pas que de la communication dans le projet de loi. C'était une coquille un peu vide au départ, et ça le reste d'ailleurs. Pourquoi avoir mis sur le plan de l'ingénierie administrative et politique le paquet là-dessus, si je puis m'exprimer ainsi?
Mais je pense qu'effectivement, il y a un déficit d'explication sur ce qu'est le compte personnel d'activité. J'espère que dans le travail parlementaire, on va pouvoir enrichir un peu ce qu'il y a de ce compte personnel d'activité. Mais même dans son état actuel, c'est un vrai changement de paradigme, c'est un vrai changement de philosophie. Le fait de dire qu'on n'attache plus les droits à un statut et donc qu'on perd des droits quand on perd son emploi.
C'était ça l'angle.
L'idée, c'est qu'on accumule des droits tout au long de sa vie qui sont attachés à la personne. Et c'est ça qui sécurise. On passe d'une logique de sécurisation des parcours dans un monde économique où aujourd'hui, on sait très bien qu'on va changer d'emploi plusieurs fois dans sa vie, qu'on va avoir des périodes sans emploi. Et le but, c'est d'avoir un accompagnement personnalisé.
Alors, c'est vrai que pour le coup, ça a été assez mal vendu, si je puis me permettre. En tout cas, vous le disiez, Olivier Roucan, François Hollande, on a l'impression qu'en ce moment, il est plus à l'aise sur les questions de politique étrangère. Il est d'ailleurs à Washington en ce moment. Et il a expliqué à la presse, dans l'avion qu'il emmenait dans la capitale fédérale américaine, pourquoi il y croyait encore et pourquoi il gardait le moral. Je vous propose d'écouter Anissa El-Jabri du service politique de RFI.
Monsieur 3% croit toujours en sa bonne étoile. 3%, souvenez-vous, c'était le score de François Hollande dans les sondages en 2011, quand celui qui n'était plus que simple député s'était lancé dans la bataille pour la primaire socialiste. Alors, aujourd'hui, comme hier, François Hollande, qui s'est confié à la presse dans l'avion qui le menait à Washington, reste un éternel optimiste. Le recul sur la déchéance de la nationalité, pas un échec personnel. La courbe du chômage, elle va s'inverser, surtout contre cette petite musique de fin de règne qui s'installe. Le président s'est montré combatif. François Hollande se dit prêt à rendre des coups. Son programme Reconquête de l'opinion est d'ailleurs déjà prêt. Interview en rafale, émission à la télévision, serait même en préparation pour la fin du mois, un meeting, comme si l'avalanche de mauvaises nouvelles l'obligeait déjà à rentrer en campagne.
Corinna Racigien, porte-parole du Parti Socialiste, vous aussi vous y croyez à François Hollande, succédant à François Hollande ?
Oui, je crois qu'une élection n'est jamais perdue d'avance. Bien sûr, ça va être difficile. Bien sûr, ça va être difficile, mais je pense qu'il y a encore dans les mois qui viennent des choses qui vont arriver. Notamment, on commence à avoir des résultats économiques, et puis au niveau du clivage droite-gauche, il va se passer quelque chose d'important. Il va y avoir les primaires chez les Républicains. Ça va nous permettre enfin de savoir ce que portent dans le détail les candidats, ceux qui veulent remplacer François Hollande à l'Élysée l'année prochaine. Et donc, ça va nous permettre aussi de faire une remise en perspective de tout le travail qui a été fait, parce que sur les questions sociales, sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, y compris même sur la politique qui a été menée envers les jeunes, on a eu beaucoup, beaucoup de bons résultats. Même si, bien sûr, on pourra toujours dire qu'ils sont insuffisants, mais on pourra pas dire qu'ils sont inexistants.
Olivier Roucan, il y aura des primaires à droite, il y aura peut-être des primaires à gauche. Là aussi, ça n'aide pas trop à la clarification du message, parce que on se dit primaires, personne n'est d'accord non plus à gauche là-dessus. Est-ce qu'on va avoir des primaires ? Est-ce qu'il n'y en aura pas ? On doit en discuter, si je ne m'abuse, le 9 avril, mm-hmm, au sein du PS. C'est compliqué, ça aussi.
Mais c'est trop compliqué, d'ailleurs. C'est pour l'électorat qui déjà manifeste depuis, alors non seulement dans la rue, mais surtout depuis assez longtemps dans des tas d'enquêtes très sérieuses d'opinion, à quel point il décroche de ce système démocratique, non pas qu'il ne croit plus en la démocratie, mais il estime par exemple depuis assez longtemps à plus de 65% que la démocratie fonctionne mal. Et là, si vous voulez, alors des primaires à droite, certains partis expliquent qu'ils veulent pas y participer, les centristes de droite. À gauche, on agite les primaires, mais Mélenchon dit « j'y vais pas ». Alors, les primaires, ça reste un dispositif qui est à peu près approuvé par l'opinion.
Ça avait d'ailleurs très bien fonctionné à gauche quand François Hollande a pu se présenter.
Même réclamé par à gauche.
Très bien fonctionné, réclamé, voilà. Simplement quoi ? Alors on va avoir, mettons qu'il y ait des primaires à droite et à gauche, on va avoir deux déplacements des sympathisants pour désigner un présidentiel. Ensuite on a deux tours de la présidentielle et dans la foulée vous avez deux tours de législative. Et curieusement, depuis qu'on a plus ou moins ce qu'on se dirige vers donc une élection à six tours pour attribuer le même pouvoir finalement.
Ça fait beaucoup de déplacements.
Mais oui, pour les aux législatives qui sont les élections majeures, en fait, eh bien, vous avez un taux d'abstention qui maintenant est très élevé. Donc ce système, ça ne marche pas, ça ne va plus. Il va falloir réfléchir aux institutions.
En 2012, les taux de participation étaient élevés.
Aux législatives, ils étaient élevés à la présidentielle, encore
oui,
que un
ça,
peu
ça,
moins
c'est
qu'en 2016.
C'est vrai qu'il y a une question institutionnelle qui se pose sur le quinquennat.
Avec le quinquennat, évidemment, mais soit on part sur des primaires qui généralisent, mais alors il faut faire une présidentielle à un tour, pourquoi pas, vous voyez, parce que ça devient quand même un peu ridicule tout ceci. D'autant plus qu'après, pendant 5 ans, désormais, on a pris l'habitude de n'avoir que des élections intermédiaires qui sont des décentralisées, européennes. C'est-à-dire que les présidents en exercice, la fonction présidentielle sous la Ve République, c'est le référendum, la dissolution et un certain... Ça n'est plus utilisé, curieusement, ça aussi. Depuis. Donc, vous voyez, il faut, pour relégitimer le système, on en a quand même besoin, malgré les éventuels bons résultats des sortants, à chaque fois. Mais on ne fait jamais campagne sur un bilan. Quand le bilan était bon, ça n'a pas aidé Lionel Jospin.
Et justement, les socialistes, on est bien placés pour savoir qu'on ne fait pas campagne sur un bilan, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2002. Mais je crois que aujourd'hui les Français ont envie de participer, mais il faut trouver des nouveaux moyens de participer tout au long d'un mandat, pas uniquement pendant les élections. D'ailleurs, c'est pour ça que on teste de nouveaux moyens de démocratie participative. Ouais. On a fait la consultation sur internet sur le projet de loi République numérique. On le fait aujourd'hui sur le projet de loi Égalité Citoyenneté. C'est pas, je le dis parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication là-dessus.
Vous avez un vrai problème de communication, c'est sûr.
Beaucoup de gens qui participent parce que c'est une nouvelle façon de faire vivre la démocratie au quotidien.
Et ce sera le mot de la fin. Merci mille fois à tous les deux d'être venus en direct dans les studios d'RFI. Corinna Racigien, porte-parole du Parti Socialiste. Olivier Roucan, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques.